Inclusion, ça serait d'inclure tout le monde. C'est le terme en tant que tel. L'accessibilité, c'est de s'assurer que tout le monde a l'accès pour pouvoir être inclus. C'est quelque chose qui est souvent oublié.
Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif.
Épisode 23, parlons entrevue, intelligence artificielle et accessibilité avec Sophie Lemieux.
Avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloume et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
Allô, bienvenue à ce nouvel épisode des Neurodivertissantes. Aujourd'hui, on reçoit Mélissa et moi, Solène, on reçoit Sophie Lemieux. Bonjour Sophie!
Allô!
Mélissa, tu vas bien?
Oui, ça va bien, ça va bien. On commence à sentir que Noël approche.
Oui! Effectivement. Sophie, on va jaser avec toi de quoi on va jaser? On a plein d'affaires, c'est sûr, mais de recrutement, mais du point de vue de la personne neurodivergente, parce que tu travailles notamment en ressources humaines, tu es toi-même neurodivergente, et bref, peut-être que tu pourrais commencer par nous parler de ton parcours un peu pour nous dire ce que tu fais.
Oui, absolument. Comme tu l'as dit, je suis une personne neurodivergente. C'est quelque chose que j'ai pas mal toujours su. Là. J'ai eu un diagnostic assez tôt. Par contre, j'ai toujours pensé que je pouvais comme travailler par-dessus ça ou que j'étais capable de combler ça, probablement par mon éducation et je sais comment j'ai été élevée. Puis c'est un peu dans le monde du travail que j'ai réalisé que, ben oui, je peux masquer de façon profonde, mais juste pour une période de temps là, qui va jusqu'à un an ou deux ans. Mmh. Puis après, ben comme capote, là, j'ai besoin de me reposer un peu. Fait que j'ai cherché des environnements qui pouvaient soutenir ma façon de travailler, ce qui est à dire comme en sprint, puis après, je peux prendre des breaks, puis c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Ce que j'ai trouvé qui était le meilleur fit pour ça, ben, c'est de travailler en technologie, puis en start-up. Et à Montréal, on est servi là, pour les startups, donc j'ai jamais manqué de contrat ou de business. J'ai toujours préféré travailler comme consultante que pour une entreprise, là, pour des raisons peut-être évidentes, mais juste parce que je préfère ne pas me faire dire quoi faire.
Oui, comme moi. Comme nous, en fait.
Ouais, hein? Mais là, je travaille pour une entreprise, en fait, à temps plein. Depuis quelques mois, puis c'est une entreprise qui est vraiment focussée sur de donner les outils pour les personnes qui ont besoin d'utiliser le web, mais qui utilisent de l'assistance technologique pour naviguer le web. Alors, c'est premièrement quelque chose qui rejoint énormément comme mes croyances, des choses pour lesquelles je veux travailler, mais c'est aussi fondamental dans la culture de l'entreprise qu'on soit capable d'offrir un milieu de travail qui fonctionne pour chaque type de personne. Puis les accommodements, c'est au centre de notre processus de recrutement, mais aussi de notre processus de culture. Donc, je suis dans une belle situation. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir travailler là. Puis c'est sûr que j'ai eu... je pense pas que j'ai eu un parcours très linéaire pour me rendre là. Qui a eu un parcours linéaire, qui est une femme neurodivergente? S'il y en a une, je vais être vraiment intéressée de la rencontrer.
Ouais, moi aussi. On l'invitera au podcast. Mais d'ailleurs, dans ton entreprise actuelle, vous étiez à la recherche d'un ATS, d'un Applicant Tracking System. Donc, en fait, un outil, tu sais, quand on va sur le web puis qu'on postule à un poste, puis ben souvent, ça va être sur un système qui va automatiser certaines tâches pour les ressources humaines. Puis vous en cherchiez un qui était accessible qui faisait preuve d'accessibilité, puis vous avez pas trouvé finalement.
Non, c'est ça. Ben, en termes de ATS, on en a trouvé un qui était... Tu sais, j'ai baissé mes critères progressivement. Et là, j'en ai trouvé un qui était « committed to accessibility ». Alors, la traduction exacte...
C'est « engagé envers l'accessibilité ».
Exact. Donc, c'est pas accessible, mais ils essaient. Ils prennent notre feedback et c'est pas si pire. On a fait... Si on a pris des testeurs, dans le fond de notre entreprise, on engage plusieurs testeurs. C'est des gens avec des handicaps qui utilisent assistive technology, là, la technologie d'assistance sur une base régulière, puis on les a fait tester toutes les bases de données qu'on voudrait utiliser, et c'était tout horrible. Quand je dis horrible, je dis comme en bas de 1 sur 10, là, ça ne passait pas, ça ne fonctionne pas. Et quand j'essayais d'avoir ce feedback-là avec les équipes de vente, on me disait, on n'a vraiment pas cette demande-là souvent, c'est la première fois qu'il y a une demande pour l'accessibilité. Ce que j'ai trouvé vraiment plate parce que c'est pas une raison d'être inaccessible. Là, non, on discrimine pas parce qu'il n'y a pas eu une demande de ne pas discriminer d'habitude. Là,
ouais. C'est un peu le principe de base.
Ouais.
Mais c'est dire aussi que les personnes ne vont pas le dire que c'est inaccessible. T'sais, on va pas se plaindre de ça. Oh,
mais... Ben c'est ça aussi. Si c'est un système de traitement d'applicants, le feedback du candidat, c'est quand il va se rendre à l'équipe de vente
ouais, c'est ça.
De ton outil.
Mais c'est ça, si on n'est pas satisfait, on va juste s'en aller et voici. Et là, c'est la marque employeur qui va en prendre un coup, tu sais.
Exact. C'est ça. Exactement.
Parce que, tu sais, l'autre côté de la médaille, c'est de dire, OK, ben si c'est pas accessible puis je le mentionne, c'est clair qu'ils m'engageront pas.
Aussi.
Il y a personne qui va dire. Fait que, non, je trouve ça intéressant que tu dises. Puis, tu sais, j'avais regardé ton profil sur LinkedIn puis ton évolution puis. C'est ça, quand j'ai vu que tu avais commencé cet emploi-là, cet endroit-là, j'étais comme, mon Dieu, on dirait que c'est comme un fit parfait, tu sais, créé dans les astres, là, de dire, tu sais, toi qui as à cœur toute l'inclusion puis la façon de travailler, puis que là, cette entreprise-là, ils font vraiment ça. J'étais comme, tu sais, il y a espoir pour les personnes neurodivergentes de trouver aussi des fits comme ça.
Ouais. C'est là, quand j'ai vu qu'ils existaient comme compagnie, j'ai fait. Je savais, j'ai comme un appel des anges. Là, que je leur parle, c'était juste très clair.
Oui, hey, mais c'est vraiment le fun que les entreprises comme ça existent. Mais sinon, quand on est une personne neurodivergente et qu'on fait face au recrutement, ça serait quoi, selon toi, les principaux obstacles? Donc là, on vient de nommer l'accessibilité, mais sinon, ça ressemblerait à quoi, à ton avis?
Mais je pense que ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise, mais on est chanceux depuis les réseaux sociaux d'une certaine façon parce qu'on est capable de voir comment l'entreprise parle, mais aussi comment les employés de l'entreprise parlent. Est-ce qu'ils sont ouverts avec des enjeux de diversité en général? Est-ce que ça a l'air d'une entreprise qui est socialement éthique? Est-ce qu'ils laissent leurs employés parler? Puis je pense qu'à la base, bien, ça devrait quand même être un critère qu'on recherche là, en tant que personne peut-être neurodivergente. C'est pas obligatoire, mais en ce moment, on s'entend que le terrain est quand même ouvert. Là, donc, ouais. Une personne qui cherche un emploi, ben, on a peut-être plusieurs options. Fait que j'irais peut-être vers un employeur, justement, qui a l'air un peu plus ouvert. Est-ce que je dirais de se divulguer ou de dire ouais. T'as un diagnostic pendant le processus d'entrevue? Non, absolument pas. Je recommande pas ça du tout. À moins que tu aies besoin d'accommodement, mais c'est pas nécessaire de décrire pourquoi tu as besoin d'un accommodement, donc je recommanderais pas de le faire. Je pense qu'il y a une bonne façon de le voir. Puis moi, c'est un peu ce que je faisais là, avant de vouloir me joindre à Fable. J'ai été très, très ouverte, là, mais sinon, c'est de dire... Tu sais, de décrire comment ton cerveau fonctionne différemment sans expliquer c'est quoi le diagnostic. Donc, par exemple, pour moi, je disais, tu sais, je pense aux choses différemment des autres et j'ai souvent des motivations différentes pour les choses que je fais ou des façons d'y arriver qui sont différentes. Tu sais, je suis super directe. Je travaille toujours à déterminer c'est qui les personnes de mon équipe avec qui je dois être plus subtile. Puis je suis capable de m'adapter. Je m'adapte très bien aux gens avec qui je parle. C'est quelque chose que j'ai développé assez tôt, de comprendre qu'est-ce qu'on s'attend de moi et de l'offrir. Puis des choses comme ça, j'aime pouvoir être submergée dans une tâche. J'aime pouvoir comprendre les attentes clairement. Pour moi, la clé pour bien faire fonctionner une équipe, c'est la communication ouverte. Je suis vraiment logique et analytique. Bon, c'est sûr que quelqu'un qui s'y connaît en diagnostic peut dire quand même rapidement c'est quoi là, mon diagnostic avec ces caractéristiques-là. Par contre, bon, c'est rare que les gens en RH ont cette connaissance-là. Non, ouais. Donc, je pense que ça démontre plus une connaissance de soi, puis c'est des caractéristiques que quand décrit comme ça, souvent, les gestionnaires d'entreprise vont trouver ça cool. Enfin, comme, ah, quelqu'un qui passe pas par 10 chemins pour dire quelque chose. Analytique, logique, ça, c'est des termes qu'ils aiment entendre. Fait que, en tout cas, dans mon expérience, elle a toujours été très positive quand j'en ai parlé comme ça, versus de juste dire c'est quoi mon diagnostic, puis... Comme ça, tu sais, ça l'explique vraiment. OK, je comprends mes besoins, je te les dis ici.
Oui, mais effectivement, ça, ben, tu l'as dit, ça demande une grande connaissance de soi, mais aussi, je pense que ça fait moins peur parce que, tu sais, un diagnostic, il y a plein de préjugés qui sont liés à ça, il y a plein de méconnaissances aussi qui sont liées. Donc, de dire en quoi, qu'est-ce que ça implique, ben, d'un, ça fait moins peur, ça, puis ça devient plus concret également. Donc, c'est un... Oui, mais ça...
Oui, puis dans la façon que tu l'apportes aussi, je trouve que, tu sais, ça démontre une belle introspection parce que, comme tu dis, Solène, il faut quand même bien se comprendre puis des fois, c'est pas toujours facile de... Toi, tu dis que tu as eu ton tes diagnostics quand même assez tôt dans la vie, fait que ça t'a permis de cheminer des fois quand on l'a beaucoup plus tard, c'est un peu plus difficile à faire, mais la façon que tu le disais, je trouvais que ça énonçait un besoin très habilement en même temps qu'une force, fait que, tu sais, de...
Oui.
Puis je pense que c'est ça aussi, tu sais, que ce soit en coaching, en accompagnement, d'aller avec les profils de force des personnes, puis c'est ça qu'on essaye de faire avec le podcast, c'est de sortir des préjugés du diagnostic, de dire, OK, il y a des particularités, des forces, des besoins, puis je trouve que tu l'énonçais vraiment de façon super habile.
Oui. Fait que première étape, se connaître. Ce qui n'est pas toujours facile, mais moi, ce qui m'a particulièrement aidé pour identifier quelles étaient mes forces puis mes besoins, ça a été de parler avec d'autres personnes qui avaient un profil similaire, tu sais. Et là, ben, ou bien de parler avec des gens qui me connaissent bien puis qui sont capables de dire, ben, ouais, toi, t'es plus comme ça. Fait que, comme Elissa, c'est aussi capable de me dire, ouais, ben, quand t'es sous stress, t'es plus raide. Fait que, donc, il y a des gens comme ça autour de soi qui peuvent nous le dire aussi. Puis, donc, c'est de parler avec plein de gens, finalement, avec un maximum de personnes, puis de prendre un peu tout ce qui nous convient puis ce qui nous résonne en nous à travers tout ça. Donc, ça, ce serait la première étape. Moi, ce que je trouvais très dur, c'était les entrevues. Parce que, pas juste l'entrevue en tant que telle, même pas juste, ben oui, l'entrevue en tant que telle, mais avant ça, c'est, OK, je vais dans un bâtiment que je connais pas les lieux, je sais pas si ça va être facile de me stationner ou si c'est facile en transport en commun, je sais pas si je vais devoir parler avec une réceptionniste, je sais pas, tu sais, il y a tellement d'inconnus, puis c'est super difficile, en fait, juste d'arriver dans un lieu que tu connais pas, puis souvent, les personnes autistes, en tout cas, on va faire un repérage des lieux, mais là, c'est pas possible de rentrer à l'intérieur du building. Fait que peut-être de demander, je sais pas ce que t'en penses, Sophie, mais de demander à quoi ça ressemble ou un plan ou whatever. Tu sais, ça peut faire bizarre, mais ça peut être une option, je pense.
Ben, je pense que ça montre que t'es préparé encore une fois. Tu sais, ça dépend c'est quoi le rôle, mais d'habitude, si tu fais ça, tu vas chercher un rôle qui est quand même aligné avec tes compétences. Fait que. Honnêtement, là, de demander un plan, de dire que tu veux être sûr d'arriver à la bonne place, puis toutes ces choses-là, comme si tu décris la situation et le besoin, mais comme clairement avec c'est quoi le rendement de ça, puis pourquoi, je pense qu'il y a rien de mauvais là-dedans, c'est pas mal vu. Puis si c'est mal vu, honnêtement, tu veux pas travailler là.
Oui, effectivement. Mais ça peut être aussi de juste faire un repas, peut-être pas d'aller à l'intérieur du building, mais de se préparer puis d'aller une première fois dans le lieu puis de faire une simulation de OK, ben tu sais, tel jour vers telle heure je dois être là, est-ce que c'est facile de me stationner, c'est quoi les, je sais pas moi, c'est quoi les vignettes de stationnement dans le coin, c'est quoi à quoi ressemble le bâtiment, où est l'entrée. Donc ça peut être un moyen, je pense, de faciliter les choses. Puis je t'ai vu réagir quand on parlait des entrevues. C'est difficile pour toi?
Ben, d'un côté, oui, d'un côté, non. Je peux dire que moi, comme personne qui fait des entrevues, qu'est-ce que j'offre là, aux employés? Puis dès le début, mettons, là, la première entrevue, je donne un outline de c'est quoi le processus d'entrevue, il y a combien d'entrevues, chaque entrevue et combien de temps, on va parler de quoi et c'est qui est là. Puis, honnêtement, là, en haut de 60% des candidats me disent « Oh mon Dieu, c'est vraiment cool, tu sais, ça m'a vraiment aidé. » Fait que c'est pas juste les personnes qui sont neurodivergentes qui aiment ça, là. Tout le monde aime ça, des choses claires. C'est pas nécessairement parce que t'as un diagnostic que ta demande est déraisonnable, tu sais. Puis je pense que ça, si t'es de l'autre côté de l'entrevue, là, puis que tu donnes un plan, puis comment arriver, puis à qui tu vas parler, c'est qui la réceptionniste, puis tous ces détails-là... Honnêtement, je peux pas dire le côté neurotypique, là, je suis clairement pas, mais j'ai l'impression que même les gens neurotypiques pourraient bénéficier de plus de clarté, de plus de détails,
oui.
De mettre très clairement c'est quoi les attentes. Fait que oui. Mais pour revenir au point, petite parenthèse, là, mais oui, les entrevues, je pense que En général, c'est tout croche. C'est vraiment un processus qui a besoin d'être revu.
Ah oui!
Du CV, puis de la lettre de couverture. Puis juste le processus en général, là, c'est brisé. Puis encore une fois, c'est pas juste pour les personnes neuroatypiques. Là, c'est comme tout le monde. Il y a personne à qui je parle qui me dit « Ah, j'aime tellement ça écrire une lettre de couverture. » Pour un emploi, puis juste de c'est comme une lettre de sixième année de français, c'est plate.
Ouais. Que personne va lire, tu sais.
En plus.
Personne va lire, ou qu'un système va lire. Puis là, ils sont rendus avec des AI qui font des premières entrevues, fait que tu parles à un mur, puis ils te donnent une note si ton regard était à la bonne place, puis est-ce que ta dilatation des pupilles faisait du sens, puis toutes ces choses-là qui sont plus discriminatoire que pas, mais aussi complètement ridicule. En quoi ma dilatation de pupille va faire que je suis meilleure en technologie.
Ouais. Ben d'ailleurs, un truc pour... parce que souvent, les personnes autistes, entre autres, on a la difficulté à regarder dans les yeux, mais un truc, c'est de regarder entre les deux sourcils. Ça donne l'impression à la personne en face de soi qu'on le regarde dans ses yeux, alors que pas du tout. Donc, ça peut être un moyen de passer outre ce léger inconvénient.
Ouais. Mais justement, tu sais, c'est parce que je trouve ça intéressant ce que tu apportes avec le AI en entrevue. C'est-tu quelque chose que, justement, tu avais creusé avec par intérêt personnel ou avec ta compagnie? Mais j'aimerais ça en savoir plus là-dessus parce que tout le monde en parle. C'est comme de big rage en ce moment, tu sais. Mais c'est quand même plus complexe que ce qu'on peut penser. Puis je voulais savoir un peu des constats là, sur la chose.
Ben, je suis absolument contre l'utilisation de AI pour une première entrevue, là, de faire qu'un candidat parle à un mur, même s'il n'y avait pas de discrimination, on s'entend, on n'est pas là, mais même s'il n'y avait pas de discrimination, c'est une expérience employée qui est horrible. Là. C'est juste complètement horrible. Tu parles à personne. Je vois pas dans quel monde ça fait du sens, surtout dans le marché dans lequel on est en ce moment. Là, t'sais, on peut pas vraiment se permettre de dire aux gens « parle à rien, parle à personne, puis je vais rater des choses qui n'ont aucun rapport avec ta job. Tu vas perdre énormément de candidats. » Mais là, il y a aussi que... Il y a le côté éthique du AI qui est toujours controversé, mais en général, pour le processus d'entrevue, ça a été démontré que il y a des biais contre les personnes de couleur, il y a des biais contre les personnes qui sont des femmes ou des... T'sais, toutes ces choses-là, à la base, ça a été démontré parce que c'est créé et codé par une personne biaisée, donc le biais continue. Puis l'AI apprend sur lui-même, donc le biais se perpétue, puis devient de plus en plus large. Là, il commence à avoir des demandes de législation. Le New York, je pense, a été la première place qui est en train de faire une législation sur comment les logiciels d'entrevue qui utilisent l'intelligence artificielle font, c'est quoi leur algorithme, puis qu'ils vont devoir discloser de façon publique, c'est quoi les biais qui ont été utilisés là, dans le processus d'entrevue. Ce qui sonne comme une victoire, ce n'est pas. Là, dans ma tête, il n'y a personne qui va lire comment un logiciel d'intelligence artificielle fonctionne pour essayer de comprendre ça a été quoi le biais contre la personne. Je ne pense pas que ça va arriver. Et en deuxième lieu, que si jamais tu ne veux pas utiliser ce processus-là, tu puisses faire une demande d'accommodement pour ne pas avoir à aller sur ce processus-là. Mais là, encore une fois, on met le fardeau d'accommodement sur la personne qui a besoin d'accommodement, comme si elle n'avait pas assez de fardeau dans sa vie, comme si juste le processus d'entrevue normal n'était pas déjà un combat. Alors, je suis vraiment là 100% contre ça. Je trouve ça tellement poétique comme compagnie. Et si je vois une entreprise qui utilise ça, moi, c'est comme « I'm out », j'ai aucun intérêt, là.
C'est ça, parce qu'il y en a qui disent justement que tu as moins de biais parce que c'est pas géré par un humain, mais tu as la notion c'est que c'est codé par quelqu'un qui peut mettre ses biais. Fait que tu sais, c'est qui code, comment c'est fait. Puis tu sais, là, je pense par exemple à l'outil Elis que j'ai pas eu le temps d'explorer à 100%, mais qui est un outil, dans le fond, d'intelligence artificielle en recrutement, mais pour enlever les biais. Fait que lui, il flag les biais de recrutement, puis ça permet justement de les enlever. Fait que ça, c'est comme l'autre côté qui devrait être utiliser puis être plus populaire. Puis j'aimerais ça, tu sais, qu'on puisse explorer ça aussi avec, avec le podcast éventuellement. Mais c'est ça, il y a beaucoup de chemin à faire puis il y a beaucoup de monde qui se pose des questions là-dessus. Fait que je trouve ça intéressant qu'on en parle. C'est la première fois qu'on en parle là, sur le podcast de ça.
Ouh! Nouveauté. Ouais, mais c'est même pas, même si la personne, c'est pas un humain qui code, tu sais, juste, l'intelligence artificielle va se baser sur les faits passés pour déterminer qu'est-ce qui est bon. Mm-hmm. Puis ben, dans le passé, on a eu des biais parce que, par exemple, ça va être un homme blanc de, tu sais, 6, etc., qui a eu le poste. Ben, on va se fier, ah, ben, si c'est ce critère-là qui est commun à tous ceux qui ont eu le poste, ben, ça doit être un bon critère. Donc, on va le répéter. Puis bref, donc il y a tout un problème de programmation qui est vraiment complexe et pas évident. Mais si t'es un candidat ou une candidate et que t'es face à ça, à part fuir, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on demande une mesure adaptative pour ne pas avoir ce processus-là? Est-ce qu'il y a moyen de se préparer?
Oui, il y a absolument moyen de se préparer. Il y a moyen de savoir d'avance c'est quoi les questions que certains logiciels vont te poser. Là, disons, je pense à HireVue, qui est celui avec qui moi j'ai le plus de problèmes, là, qui est le plus utilisé aussi. Et c'est ça, tu peux voir sur GitHub, là, il y a quelqu'un qui a créé un code pour pouvoir accéder d'avance le registre de l'entreprise pour savoir quelles questions qu'ils vont te poser, puis aussi sur quoi ils vont se baser pour marquer. Je ne sais pas à quel point c'est éthique de dire ça, mais à la base, c'est une compagnie qui utilise ces logiciels-là. Tu ne mérites peut-être pas l'étiqueté d'avoir quelqu'un qui ne peut pas se préparer aux questions. Ouais. Fait qu'il y a cette possibilité-là. Il y a tu peux faire du training. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui t'expliquent comment avoir la meilleure performance. Et c'est là que tu vois aussi, tu sais, c'est un peu weird parce qu'ils vont dire comment faire l'éclairage, comment te centrer, où mettre ton regard. Fait que c'est sûr qu'on se pose des questions sur en quoi ça a un rapport avec l'emploi, être capable de performer.
Exact.
Mais oui, il y a la possibilité de le faire. Est-ce que je dirais de demander une mesure d'accommodement? Probablement pas. Je veux dire, si c'est une entreprise pour laquelle tu veux vraiment travailler, peut-être essaie-le. Puis si tu ne te rends pas à la deuxième entrevue, ben écris-leur après. Mais peut-être, ouais, l'essayer dès le début. Pour voir, parce que c'est vrai que ça pourrait filtrer les biais de façon positive aussi pour toi, ça pourrait.
C'est ça, parce que tu sais, avec le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, tu sais, on se dit, OK, mais si on a autant de misère à avoir des candidats, pourquoi est-ce qu'on va avec des options aussi rapides? Mais le turnover des candidats est tellement rapide aussi que les gens en ressources humaines dépensent un temps puis une énergie folle à faire des entrevues dans le vide parce que les gens, ils se trouvent quelque chose le lendemain ailleurs. Puis, fait que, tu sais, ces outils-là permettent justement de rendre le département des ressources humaines un peu plus flexible par rapport aux autres demandes. C'est de dire, bon, ben l'entrevue, elle est passée par un système la première. Fait comme ça, pendant ça, je peux faire des choses au niveau des opérations qui ont peut-être une meilleure valeur ajoutée pour l'entreprise. Mais d'un autre côté, les biais font que ça peut couper certaines candidatures possibles de rentrer dans l'entreprise. Fait que, en tout cas, tu sais, la réflexion derrière ça, c'est que le coût-bénéfice, est-tu bien équilibré dans des solutions comme ça, là?
Oui, parce que je sais pas, mais là, niveau marque employeur, avoir parlé à une machine, c'est jamais gagnant, tu sais. Fait que c'est où est-ce que tu vas mettre ton... Je pense que c'est des questions plus philosophiques, si je puis me permettre, ouais. Mais tu sais, de est-ce que je vais mettre mon énergie à avoir des candidatures puis à faire un processus qui va être gagnant puis que la personne va rester le plus longtemps possible parce qu'elle a vécu une belle expérience candidat, ou est-ce que je vais mettre mon énergie ailleurs? Mais tu sais, ça, c'est un peu complexe.
j'avais cette opinion-là avant, puis... Avant de me lancer, j'avais passé une entrevue comme ça pour une entreprise. Puis, tu sais, j'avais comme mes perceptions par rapport à ça. En vivant, honnêtement, j'avais trouvé que c'était quand même stressant parce que, tu sais, ça dit, OK, bon, mais t'as comme 30 secondes pour lire la question. Puis, ça, puis t'as comme 90 secondes pour répondre, 5 minutes pour écrire ta réponse, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, pour moi, écrire, tu sais, je veux dire, ça donne, tu sais, là, j'en fais des fautes, là. Fait que, tu sais, de me dire, OK, est-ce que je vais être notée sur les croquis que je fais parce que là, je suis stressée à écrire vite, tout ça. Sauf que, honnêtement, j'ai pas j'ai pas détesté le processus. Tu sais, il y avait une petite vidéo au début qui introduisait, qui présentait l'entreprise. Après ça, en finissant, c'était la première fois que j'avais reçu un sondage pour savoir, tu sais, comment est-ce que j'avais apprécié l'expérience, c'était quoi mon opinion d'entreprise par rapport à ça, tout ça. Fait que d'un côté, c'était stressant. D'un autre côté, je trouvais qu'il y avait comme d'autres éléments dans ce processus-là qui étaient plus intéressants que ce qui se fait dans le traditionnel. Tu sais, personne ne m'a jamais demandé comment j'avais trouvé mon expérience d'entrevue, là.
Ouais. Ben, c'est... Je sais pas, donc, il y a moyen quand même de faire des choses bien, mais... Donc, c'est pas... Faut pas paniquer, finalement, quand on fait face à ça. C'est ça qu'on retient. Et l'entrevue standard, y a-tu? Parce que, tu sais, moi, ce que j'aime pas dans l'entrevue standard, c'est, mais probablement, il y a souvent plein de stimuli autour parce que, je sais pas, il y a des gens qui passent dans le corridor, il y a un néon, le foutu néon qu'on déteste tant, qu'on aime tant détester. Mais il y a ça, il y a plein de choses, il y a souvent plein de... Il y a des fois que, tu sais, il y a 3 personnes pour nous interviewer, fait que ça, c'est épouvantable. Fait que... Mais tu sais, est-ce qu'il y a des stratégies que tu recommanderais, Sophie, pour se préparer à cette épreuve qu'est une entrevue?
Ben oui, tu sais, tu peux toujours demander des accommodements.
Oui.
Demander une première entrevue virtuelle, c'est bien correct, là. Souvent, tu sais, toutes les entrevues, sauf la dernière, devraient être en virtuel, à mon avis, juste parce qu'il y a juste demandé aux gens de se déplacer, puis pour les ressources en général, c'est une grosse demande. Donc ça se fait de demander en virtuel, de demander les questions d'avance ou c'est sur quoi ça va être basé pour l'entrevue. Je pense que c'est correct, ça se fait, puis des bons recruteurs vont répondre, puis donner un peu les questions d'entrevue qu'ils vont te demander. Puis c'est un peu... Je sais pas comment dire, c'est pas genre un jeu, là, une entrevue, mais un peu. Si ouais. Tu peux te préparer, c'est un peu comme les échecs, là. Puis tu vas avoir comme ta liste de questions potentielles. Habituellement, ça va être dans genre un top 20 questions qui vont être répétées, formulées peut-être de façon différente, mais qui vont te demander des choses. Fait que c'est... Chaque question d'entrevue, c'est une formule, puis tu peux très bien te préparer. Tu sais, la question « parle-moi de toi », qu'on n'aime pas vraiment, mais
non. C'est
très facile de « wow » des intervieweurs en sachant comment la préparer, puis comment faire la synthèse de ça, puis comment la présenter. Et ça se fait très bien. Puis c'est 95% sûr que tu vas te faire poser cette question-là en entrevue. Donc, c'est une préparation qui est quand même idéal pour ça.
Comment tu réponds à ça?
Ah, oh, wow, OK. attends, il faut que je sorte mon livre, m'a-t-elle dire.
Parce que c'est tellement une question qui ressort. Puis moi, elle m'a buggé pendant vraiment longtemps parce que, tu sais, parle-moi de toi, c'est tellement une question générale. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, j'ai un chat. tu sais, non, j'exagère, mais...
Ben oui, mais tu sais, même juste au niveau de... Tu sais, juste au niveau de la communication interculturelle, au-delà de la neurodivergence, c'est différentes cultures, pour eux, parler de soi, quand tu viens d'une culture où ce que l'individualité n'est pas mise de l'avant, c'est difficile, là. Fait que, par exemple, certains pays asiatiques, certains pays d'Amérique du Sud, tu sais, pour eux autres, parler de soi, c'est pas bien vu.
Non,
fait
c'est
que,
ça.
Tu sais, fait que, est-ce que dans un contexte où la collectivité prend le dessus, quelqu'un qui demande de parler de soi, ben, en tout cas, tu sais, je vais juste dire que ça peut aller à différents égards des questions comme ça qui peuvent être discriminatoires sans vouloir l'être nécessairement, puis on le sait pas, tu sais, c'est pas dans mauvaise foi. On pense qu'il faut faire des entrevues comme ça, on a été élevé à faire des entrevues comme ça, tu sais, on a été éduqué à l'école à les faire comme ça, on l'a vécu comme ça toute notre vie, fait que sans se poser de questions, c'est là vers ça qu'on va. Là. Mais Sophie, je pense que tu as trouvé ton livre, là, justement.
Je l'ai trouvé. OK. Donc, le livre, ça s'appelle « Cracking the PM Interview, How to Land a Product Manager Job ». Je trouve que c'est vraiment, vraiment important comme livre parce qu'il explique les top 20, mettons, questions d'entrevue en tech, évidemment, là, un rôle de PM, mais... J'ai l'impression que l'auditoire est peut-être un peu pour les gens neuroatypiques, mais peut-être pas aussi, là, mais on s'entend souvent en tech, il y a ce type de profil-là. Fait que c'est vraiment bien défini comment le dire. Puis ce qu'il dit, c'est comme, tu sais, prépare-toi, là, c'est vraiment, tu vas répéter la même chose, tu sais, OK, parle-moi de toi, genre oui, j'aimerais, tu sais, parfait, oui, je vais parler de moi, puis tu expliques, mettons, où tu es en ce moment. Je suis présentement dans ce rôle-ci, à cette compagnie-ci. Voici comment je suis rentrée dans ce rôle-là ou dans ce département-là. Donc, mettons, moi, je suis en ressources humaines chez Fable. Je suis rentrée en ressources humaines par accident. Là, c'était pas du tout mon objectif. Puis, t'expliques, mettons, là, en 20 secondes, pourquoi tu es rentrée par accident, qu'est-ce que t'as fait. Avant ça, fait que commence avec le plus récent. Explique pourquoi tu es dans ce programme-là ou dans ce domaine-là ou peu importe. Puis là, après, ben, recule. Fait que qu'est-ce que j'ai fait à l'université? Après l'université, j'ai été dans ce rôle-là. Voici ce que j'ai accompli, genre un, deux accomplissements. Par la suite, comment j'ai appris ça? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre en ce moment? Puis, pourquoi je cherche autre chose? Tu sais, rapidement, qu'est-ce que je cherche comme défi? Et c'est pas mal ça. Comme,
ouais.
C'est vraiment une recette. C'est genre une formule. Puis si tu l'écris comme ça, t'organises bien ta réponse, puis ça se répond en comme une minute.
Ouais. Ouais, mais c'est super. On va mettre le lien du livre là, dans les liens de l'épisode, parce que ça a l'air vraiment intéressant. Puis ce que tu dis, c'est vrai. Puis j'avais déjà, dans mon ancienne vie, j'avais aidé des gens à se préparer à des entrevues, tu sais, puis c'est pas que de tricher, de savoir d'avance ça serait quoi les questions ou de se préparer parce que veux pas, si t'arrives en entrevue puis neurodivergent ou pas, c'est t'es stressé puis que tu bafouilles ta réponse ou que tu t'arrives pas à être concis, ben de un, toi, ben tu te sens pas bien là-dedans puis l'entreprise aussi, elle va se priver de toi. Fait que tu sais, à moins que t'as un job parce que tu dois être sur le gun pour répondre tout le temps, genre dans les ventes ou quelque chose comme ça, tu sais, il y a pas vraiment de raison de dire que la personne, elle pourrait pas se préparer d'avance puis arriver avec des bonnes réponses adéquates qui font du sens puis qui peut lui permettre de vraiment se mettre en valeur, là. C'est pas un test d'université.
Non, effectivement, puis on a le droit d'avoir des notes, hein, comme candidat. Mm-hmm. On a le droit. Moi, généralement, je vais le demander à la personne qui m'interview si est-ce que c'est correct si j'ai mes notes. Puis là, ben, on me dit oui parce que c'est surprenant encore. Mais on a droit à nos notes. Fait que si on s'est préparé, ben, tu sais, évidemment, on doit pas lire notre texte, là, mais tu sais, d'avoir des points essentiels de, OK, ben, parle-moi de toi. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir premièrement? Puis qu'est-ce que je veux répondre à ça? Puis ensuite, parce que tu sais, souvent, c'est les mêmes champs de questions qu'ils vont poser. C'est à peu près toujours les mêmes choses qu'ils cherchent à savoir par leurs questions, mais de façon différente. Fait qu'il y a moyen de se préparer puis d'avoir comme, je sais pas moi, ton plus grand accomplissement, ton fameux défaut qu'on déteste cette question-là puis elle est de plus en plus pas posée parce que c'est problématique, mais on doit quand même s'y préparer. Fait qu'il y a moyen de le faire, effectivement.
Ouais. Puis pour revenir aux notes, c'est souvent une bonne façon de ne pas avoir à soutenir un contact visuel avec ton interlocuteur aussi. Moi, j'ai toujours des notes là, dans les meetings, surtout dans les meetings un par un. Puis des fois, tu sais, ça fait mal à la tête là, de soutenir le contact visuel. Je suis excellente, là, vraiment excellente en masquage. Par contre, tu sais, c'est le fun de pouvoir prendre des pauses puis d'avoir tes notes, c'est vraiment quelque chose qui peut aider pour ça. Fait que quand t'es un candidat, je suis même pas sûre que tu dois le demander. T'sais, honnêtement, si t'as tes notes sur la compagnie, je pense que ça paraît bien. Là. C'est sûr que j'ai un biais de l'autre bord complètement, là. Mais moi, je pense que ça paraît bien.
Oui, effectivement. Puis tu sais, c'est, on a le droit de prendre des pauses aussi, on a le droit de réfléchir. C'est correct de pas répondre instantanément, tu sais.
Oui, c'est vrai qu'on est dans une société, puis on en avait parlé avec Amandine puis Mylène, justement, de ça, tu sais, la pression de toujours répondre vite, puis d'avoir la réponse instantanément, puis il n'y a pas de valorisation à réfléchir avant de répondre. Fait que c'est un bon point qu'on apporte. Puis je me dis, tu sais, aussi, comme personne neurodivergente, on a des forces aussi, puis comment est-ce que, tu sais, d'amener ces forces-là à notre avantage? Tu sais, le processus d'entrevue, de plus en plus, surtout depuis que des employés, bien, les candidats, ils ont le plus gros rapport de force, si on veut, avec la pénurie de main-d'œuvre pour plusieurs secteurs, ça nous donne plus de latitude, je pense, de pouvoir émettre certaines conditions ou avoir certaines... je cherche le mot, mais tu sais, de prendre les devants sur certains points. Puis là, tu sais, je donne un exemple comme ça, mais tu sais, si par exemple, d'expliquer certains projets, c'est plus difficile, mais de montrer un portfolio, c'est plus facile, mais que le portfolio, il n'est pas demandé, mais tu sais, t'as le droit de dire, ben regarde, j'aimerais mieux laisser mon travail parler pour moi. Fait que, tu sais, oui, tu passes une partie d'entrevue, mais tu sais que si tu as de la misère à nécessairement exprimer certains éléments, le fait que tu peux apporter quelque chose comme un portfolio, des exemples, que tu as le droit de partager. C'est toutes sortes de façons qui peuvent être brainstormées ou réfléchies en fonction de ses particularités et ses avantages.
Oui. Non, effectivement, mais de plus en plus, les employeurs n'ont pas le choix de s'adapter aux candidats puis aux candidates. Tu sais, fait qu'on peut faire des demandes puis on perd à rien, hein. C'est... Au pire, on va nous dire non, puis ça s'arrête là.
C'est ça. Ou tu sais, je me dis, mettons, tu sais, si justement, tu sais, là, je pense à peut-être quelqu'un qui, tu sais, avec un TDAH, des fois, c'est difficile de mettre les idées dans une séquence qui fait du sens linéaire pour l'autre personne, tu sais. Fait que je me dis, tu sais, des fois, en entrevue, de dire, ben, tu sais, j'aimerais ça être capable peut-être de te démontrer tout ce que je peux faire. S'il y a des mises en situation, est-ce que je peux peut-être prendre la mise en situation puis prendre le temps de te répondre avec un texte ou des bullet points ou, tu sais, de passer dans la vie au travail, si t'as à gérer des situations ou des cas, tu vas pas nécessairement devoir toujours les gérer sur le coup, là, tu vas pouvoir le temps de te faire un plan de match puis de réfléchir puis d'y penser. Fait que l'entrevue devrait, tu sais, à mon sens, à moi, refléter aussi la réalité du travail. Tu sais, je donnais des tests, moi, à des candidats, puis je leur disais, tu sais, si tu vas sur Google Translate pour faire le test de traduction, rendu là, si ton texte revient impeccable, je m'en fous. Tu sais, je veux dire, je vais pas te dire après ça au travail, non, tu peux pas prendre Google Translate, là, fait que... Il faut que la réalisation des éléments que tu évalues pour un emploi corresponde à la situation que tu vas vivre en emploi aussi, là.
Oui. Non, effectivement, mais ça m'amène, je sais pas, il y a quand même des employeurs qui font des efforts pour s'adapter à la neurodiversité. Il y a notamment des compagnies qui font des programmes qui sont designés, qui sont faits sur mesure, théoriquement, pour les autistes. Est-ce que tu as une opinion sur la question, Sophie? Nous, oui, mais on va en parler après.
Oui, j'ai une opinion quand même. Oui.
Ouais, comment le formuler de façon diplomatique maintenant?
J'adore, c'est tellement un ton doux, puis c'est comme, mais oui, j'ai une opinion.
Ouais, alors qu'on sait pas quel feu couvre sur ce ton doux.
Oui!
ben, tu sais, OK, l'autisme, c'est un spectre, donc je pense que c'est utile d'avoir ces programmes-là pour les gens qui sont à certains endroits sur le spectre. Donc, tu sais, en termes d'habileté ou de comment ça se traduit sur le milieu du travail, leurs habiletés, tu sais, je pense que c'est utile d'avoir ces programmes-là pour des gens qui sont peut-être... Là, on l'a parlé au début, le non-verbal, c'est pas le mot à utiliser, mais on sait
oui,
pas...
Oui, parce que, mais ça, on en a jasé hors onde, mais c'est que je disais aux filles que il y a tout un débat sur la question de est-ce qu'on dit non-verbal ou pas pour parler des personnes qui ne parlent pas, parce que non-verbal fait référence à s'ils ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas utiliser le langage, ce qui est pas le cas. Des fois, ils peuvent écrire, ils peuvent s'exprimer autrement, ils peuvent... Et donc, il y a tout un débat sur la question. Fait que là, on parlait des personnes... qui n'utilisent pas la modalité de la parole pour s'exprimer dans ces processus-là, dans ces programmes-là.
Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a une utilité à ces programmes-là. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est pas ces gens-là qui sont engagés, c'est les gens qui sont considérés. Là, j'aime vraiment pas utiliser les niveaux d'habileté, là, tu sais, comme si t'es high functioning ou low functioning. Par contre, juste pour donner l'exemple ici, c'est ça reste les gens qui sont high functioning, qui sont engagés pour des programmes qui sont destinés aux personnes autistes, ce qui démontre qu'il y a une faille dans la façon que ça a été créé, que ça a été designé comme programme, parce que c'est des gens qui n'auraient peut-être pas nécessairement besoin d'être mis à part dans une catégorie à part, tu sais, du début jusqu'à la fin pour avoir un emploi qui pourrait très bien faire si on retirait certaines normes sociales qui n'ont pas nécessairement de sens à la base. Mm. Fait que, tu sais, on parle souvent du modèle social, là, du handicap. Quand on regarde ça comme ça, je pense que ça sert un peu à rien d'avoir des programmes faits pour les personnes autistes quand le handicap est dû à la société, puis à c'est quoi nos attentes d'une personne alors que la personne peut réussir son travail et performer dans son travail. Ouais. Fait que, tu sais, le modèle social implique que, mettons, je suis pas handicapée, je suis handicapée par la société, par les normes de la société, par le fait que tu t'attends à ce que je comprenne tes sous-entendus et que je comprenne qu'est-ce que tu veux sans que tu ailles à me le dire, que je comprenne, toutes ces espèces de choses sous-jacentes-là, le modèle qui dit que si t'es trop direct, t'es bête, alors que, ben non, je suis honnête. Fait qu'un peu toutes ces choses-là, je pense que pour la plupart des gens neuroatypiques, il n'y a pas de besoin pour ces programmes-là. Je pense qu'il y a quand même une utilité à ces programmes-là. Fait que c'est ça. Je pense que je suis mitigée, mais j'aime pas du tout la publicité qu'il y a pour les gens autistes qui sont comme on doit utiliser cette force humaine qu'on n'utilise pas, puis c'est comme s'il faut qu'on soit tous des Sheldon Cooper pour que ça vaille la peine d'être engagé, là.
Non, effectivement. Mais c'est... Je pense qu'en fait, il y a des idées qui sont pas pires dans ces programmes-là. Par contre, ça devrait être des idées qui sont offertes à tout le monde. T'sais, par exemple, les personnes autistes dans ces programmes-là vont souvent être évaluées sur un exemple de tâche. Ils vont être évalués sur l'action de travailler. Ça va être ils vont avoir des espèces de périodes de stage où est-ce qu'ils vont tenter le poste, puis c'est là qu'ils vont être évalués. Je pense que ça devrait être fait pour tout le monde, parce qu'on le dit, les entrevues, c'est stressant pour tout le monde, finalement, puis c'est personne qui est à son plein potentiel pendant ces entrevues-là, ou bien des personnes qui vont être habiles à parler de leur job, mais pas forcément à la faire. Il y a des bonnes idées, mais tu sais, c'est de mettre tout le monde dans une même case, puis je pense pas que ce soit pertinent tout le temps.
Non, c'est ça, puis tu sais, ça revient avec les cases, si tu fais pas dans cette case-là, puis tout est une question de perception, parce que pour quelqu'un qui connaît pas nécessairement l'ensemble de ce qui est inclus dans le spectre de l'autisme ou les différentes manifestations, un programme comme ça, où tu sais, ce qu'on dit, nous, c'est que c'est des personnes qui sont plus, puis là, on dit entre guillemets avec beaucoup de réserve, mais plus high functioning, pour quelqu'un qui connaît pas ça, dans sa tête à lui, est peut-être plus... low functioning, mais quelqu'un qui est, après ça, très, très high functioning, c'est quelqu'un que ça paraît pas, ben ces personnes-là rentrent pas dans ces programmes-là puis se retrouvent après ça au dépourvu dans tout le reste. Ou comme on disait aussi, tu sais, Céline, si t'es pas quelqu'un qui aime les TI, ben tu sais, je connais pas de programme. Puis si tu rentres par un programme comme ça dans la porte de l'entreprise, ben tu rentres déjà avec une étiquette qui fait que peut-être que t'auras pas les moyens. On te donnera pas les moyens nécessairement, puis tu n'auras pas les opportunités de peut-être aller chercher d'autres opportunités au sein de l'entreprise en dehors de ce programme-là. C'est comme si tu fites dans ce programme-là ou tu pars.
Oui. Il y a des entreprises manufacturières, notamment aux États-Unis, qui ont des programmes comme ça qui fonctionnent bien. Hein. Mais effectivement, c'est est-ce qu'on a tous besoin de cette aide-là qui est tout le temps? Pas forcément, tu sais.
C'est ça. Puis, tu sais, basé sur le modèle universel de l'inclusion, tu sais, de dire, OK, oui, tu sais, ces programmes-là, c'est quand même mieux de les avoir que de ne pas en avoir, tu sais, on va se le dire, là, parce que sinon, ces personnes-là, peut-être qu'il n'y aurait juste pas d'emploi à point, tu sais. Mais de dire que, outre les programmes, tu sais, l'inclusion peut aller à plein d'autres niveaux, puis de voir que, tu sais, en n'ayant pas de programme, ben tu peux quand même inclure les personnes, puis... Si t'as un programme, tu peux quand même les inclure en dehors de ton programme, tu sais, c'est pas noir ou blanc, puis c'est pas, tu sais, il y en a des personnes qui ont pas besoin d'être dans un programme, mais ils ont juste besoin d'être compris puis inclus, là.
Ouais, mais effectivement, mais tu sais, je pense à une entreprise aux États-Unis dont le nom m'échappe, mais tu sais, il y avait entre autres une personne autiste qui était aux ressources humaines, qui était entrée par ce programme-là, puis fait que ça peut être très bien, ça peut être bien fait, puis ça peut être pertinent, mais... Après, je sais pas, je reste mitigée un peu comme toi, Sophie, parce que, ouais, c'est de mettre tout le monde un peu dans la même case, que tous les autistes agissent de la même façon, ont besoin des mêmes mesures adaptatives et pas forcément. Puis ça montre le fait, tu sais, ça montre que c'est super complexe, il faut mettre un programme, il faut investir dans de l'argent là-dedans, puis c'est pas forcément ça qu'il faut faire, tu sais. Okay. Puis pendant ce temps-là, ben on accommode pas les neurotypiques, qui ont autant discuté, par exemple, dans les processus d'entrevue, tu sais. Fait que tu le disais au début de l'épisode, Sophie, mais il faut revoir au complet le processus d'entrevue, finalement. C'est ça qui serait l'idéal.
Ouais. Parce que même si on regarde une personne neurotypique, il y a très peu de gens neurotypiques qui vont performer comme une personne neurotypique à 100% de leur temps. C'est comme un peu le modèle qu'on utilise aussi en accessibilité web, c'est que oui, c'est pour les personnes qui ont besoin des mesures adaptatives, mais c'est aussi pour tout le monde à un certain moment de leur vie. Tu sais, la norme est basée sur quelque chose qui est de façon stable et standardisée. Puis il n'y a pas d'humains qui sont stables et standardisés dans leur niveau, tu sais, de performance au travail. C'est juste pas comme ça qu'on est.
Non, c'est ça. Puis j'adore, tu sais, je lisais le livre de Judy Singer, là, qui est un peu la mère fondatrice de la neurodiversité, tu sais, puis je trouvais ça tellement intéressant dans son livre quand elle parlait que, tu sais, le mot « normal » a été introduit dans la langue anglaise vers 1840, un peu, tu sais, au début de l'ère d'industrialisation, puis le terme qui précédait le mot « normal », en fait, c'était « idéal », puis ça a été... Penser où ce que quand on a eu l'émergence de la classe moyenne puis de cette normalisation des personnes avec l'industrialisation, le taylorisme puis tout ça, mais aujourd'hui on n'est plus dans ce modèle-là en tant qu'entreprise, on est dans une économie du savoir, on est dans des réalités où ce que tout le monde doit être différent. Il y en a, tu sais, oui, il y en a encore des postes de montage puis de, tu sais, ils vont en avoir encore pour longtemps, mais on est en train de shifter vers autre chose, puis il faut que nos mentalités puis nos façons de faire shift vers autre chose aussi.
Oui, effectivement.
Puis dans ce qu'on disait tantôt, je m'excuse, je ne veux pas retourner en arrière, mais tu sais, les programmes, puis ça revient quand j'ai des discussions avec des personnes aussi autour de moi, tu sais, qui se disent, tu sais, des entreprises ou des personnes qui sont curieuses sur la neurodiversité, tu sais. Moi, ce que j'en explique, je ne dis pas d'arriver puis de dire, bon, ben tu vas inclure la neurodiversité. Ben je ne dis pas de tu vas inclure, comme j'ai l'impression d'arriver avec mon gros doigt puis faire comme tu vas inclure. mais tu sais, si quelqu'un est curieux pour justement bénéficier de la main-d'œuvre supplémentaire qu'il pourrait aller chercher dans différents bassins, tout ça, mais l'inclusion, en soi, c'est pas de sélectionner laquelle inclusion que tu vas favoriser, parce que ça, c'est pas une inclusion, c'est de la sélection, tu sais. Oui. Fait que si tu fais un programme, par exemple, ben, que tu sélectionnes d'inclure les personnes autistes dans ton programme, ben, pour moi, c'est pas d'inclusion. Ça passe un peu à côté du principe, justement, d'inclusion universelle, puis de se dire qu'on peut répondre à différents types de besoins, là.
Ça va être l'intégration, beaucoup plus.
C'est ça.
Oui. Mais on parlait d'inclusion, Sophie, puis d'intégration, mais toi, tu travailles plus en accessibilité, fait que c'est quoi la nuance entre tout ça?
Bien, inclusion, ça serait d'inclure tout le monde, tu sais. Bon, c'est le terme en tant que tel. L'accessibilité, c'est de s'assurer que tout le monde a l'accès pour pouvoir être inclus. C'est quelque chose qui est souvent oublié, qui est souvent, tu sais, à l'arrière-plan. Fait qu'on regarde beaucoup d'entreprises qui ont, tu sais, leur statement, excusez-le, je fais plein d'anglicisme,
mais... Leur avis, là.
Leur avis, oui, de diversité et inclusion, mais bon, l'accessibilité n'est pas du tout là. On regarde souvent des webinaires sur la diversité et l'inclusion, mais il n'y a pas de paramètres d'accessibilité sur la vidéo, tu sais, il n'y a pas de sous-titrage, il n'y a pas de... Il n'y a juste pas cette accessibilité-là qui, dans ma tête, vient avec l'inclusion, mais qui, en temps normal, ne l'est pas associée. Puis là, on pense dans, tu sais, l'accès à tout, là, en général, mais moi, sur quoi je focus beaucoup, c'est l'accessibilité web, parce que c'est quelque chose qui est très simple, tu sais, c'est pas difficile, c'est pas coûteux. Puis, encore une fois, quand on parle de la norme, le web a été construit, tu sais, sous une certaine norme, la normale qui n'existe pas vraiment, ce qui fait que c'est quand même exclusif de certaines personnes et plusieurs personnes. Et c'est pas une priorité qui est comme gouvernementale, c'est pas une priorité qui est au centre des entreprises. Et ça, je pense que ça pose un énorme problème quand on parle de RH ou quand on parle de pouvoir appliquer sur une job. Fait que, oui. Tu sais, quand on se dit on veut aller en entrevue, puis je veux aller sur le, tu sais, sur place de pouvoir avoir une entrevue avec quelqu'un, mais c'est quand qu'on voit une entreprise définir est-ce que la place est accessible? Moi, j'ai jamais vu ça. Ou de définir est-ce que notre entrevue va être accessible, est-ce que j'ajoute les sous-titrages sur Zoom? Ça prend une seconde. C'est vraiment pas compliqué, mais les gens le font pas, puis je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait se pencher aussi quand on parle de diversité et inclusion, puis quand on parle de neurodiversité, parce que, tu sais, beaucoup de gens neuroatypiques vont vraiment bénéficier du sous-titrage, vont vraiment bénéficier d'avoir des réponses claires, d'avoir les instructions claires, mais aussi d'avoir plus qu'une modalité de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, ça bénéficie vraiment tout le monde. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus parler, puis sur lequel on devrait plus se pencher, qui est de rendre chaque chose accessible. Parce que d'être diversifié, c'est une chose, d'être inclusif, c'est une chose, mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe, c'est que notre inclusion exclut les gens qui n'ont pas accès à ta plateforme de réseaux sociaux, à ton entreprise, à toutes ces choses-là. Je pense qu'on ne pense pas vraiment à ça.
Mm-hmm. Non, c'est vrai qu'on y pense pas tout le temps, puis même des fois, les meilleures intentions peuvent être étranges. Ça m'a fait penser à une anecdote que j'ai envie de vous conter. Là, c'est...
Ah, vas-y!
Parce que, bon, j'ai travaillé longtemps en formation, puis je faisais du e-learning, puis fut un jour un client qui nous demanda que l'avatar principal soit une femme en chaise roulante, parce que c'est une femme qui est en chaise roulante, puis ça démontrait qu'il est inclusif, puis certains bonhommes, certains avatars aux caractéristiques racisées, mais il n'y a pas besoin de sous-titrage parce que c'est juste je trouvais juste que c'était comique comme anecdote, tu sais, puis des fois on se dit que non, ça coûte pas cher, il y a certains moments où ce que tu sais, oui, ça coûte plus cher, c'est comme là on essaie de ramasser de l'argent pour pouvoir avoir des transcriptions de notre podcast parce que tu sais ça va être plus facile avec le temps, là, tu sais, le AI, en ce moment, il capte super bien des podcasts en anglais pour faire des transcriptions, mais nous, dans notre cas, nous, c'est plus difficile avec notre accent québécois, puis nos...
Vous parlez vite, en plus.
Puis on parle vite, ouais.
On utilise les termes qui ne sont pas forcément dans le dictionnaire. Ah non, mais on a essayé, là, avec...
Mais juste le nom Solène passe 40 fois différente, là, fait que...
Oui, c'est vrai. C'est assez... Mais sérieusement, c'est hilarant. Je pense qu'à un moment donné, on va faire un post là-dessus, une publication sur à quoi ça ressemblait quand c'était l'intelligence artificielle qui faisait la transcription. C'est hallucinant. Fait que bref, ça va être un humain.
C'est ça. Mais j'imagine, vous autres, tu sais, avec l'entreprise où tu travailles puis avec tout ce que vous faites, vous devez avoir des mines d'or de renseignements pour ceux qui écoutent le podcast puis qui disent « Ah, mon Dieu, comment est-ce que je pourrais être plus accessible? » Parce que ça peut... souvent sembler très abstrait ou comme une espèce de montagne à surmonter, puis de se dire, ben, tu sais, je me débrouille bien sans avoir à le faire, fait que je vais mettre mes efforts ailleurs, mais tu sais, si ça peut être simple puis pas coûteux, à ce moment-là, on a tout à gagner, fait que vous, tu sais, dans ce que vous faites, dans ce que vous offrez, ça ressemble à quoi qui pourrait aider nos auditeurs?
Ben, des choses faciles qu'on peut tous faire, par exemple, si on publie une image sur un réseau social, de rajouter c'est quoi la description de l'image, donc le alt text. La plateforme de réseaux sociaux, habituellement, va pas le faire. Donc, juste ça, tu sais, c'est pas très difficile, mais juste de mettre alt et une description de l'image.
Ah, mais ça dépend. Il y a des fois, Mélissa fait des images vraiment complexes, puis c'est super dur. Hein? Puis là, en plus, il faut respecter la limite de caractère. Et des fois, j'ai des mots de tête. Mais oui, c'est une chose vraiment facile à mettre en place, puis qui aide tout le monde.
Si on fait un document, de rajouter, tu sais, au lieu d'avoir une partie qui est en gras, d'avoir des headers.
Des titres.
Merci. Donc, d'utiliser la formulation dans Word. Microsoft est vraiment fort en accessibilité. Comme on a vu, là, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un petit peu de controverse récemment quand ils ont fait une conférence où les conférenciers se sont décrits au début. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ça. Par contre, c'est sûr qu'ils l'ont
mais
fait.
Mais je ne l'ai pas vu. Tu veux-tu juste résumer rapidement
Oui. Fait que Microsoft a fait une conférence, je crois que c'était sur l'accessibilité, comme à la base, et les présenteurs se sont décrits. Donc, je suis une femme dans la trentaine, blanche, je suis habillée en noir. Tu sais, ils se sont juste décrits. De façon maladroite, là, on va le donner. Tu sais, ils ont décrit peut-être leur ethnicité, leur âge, des choses comme ça. Puis là, il y a eu un débat du côté des personnes non-voyantes à qu'est-ce qu'ils veulent savoir, c'était pour te décrire, c'était pas ça. Mais ils ont quand même essayé et il y a eu un énorme débat sur Twitter. Puis j'imagine à d'autres endroits, le Reddit, Twitter. Et là, les gens étaient vraiment fâchés. Des gens qui n'ont pas de handicap étaient fâchés qu'ils aient perdu 30 secondes au début d'une présentation à cause que les gens se sont présentés. Et là, qu'on entendait le « social justice warrior » puis « on fait jamais rien de correct » et blablabla. Donc, ils se sont pas fait d'allier avec ça, malheureusement. Puis
ben, moi, oui. En tout cas, moi, j'avais été vraiment impressionnée qu'ils essayent, au moins. Moi, j'essaie de le faire dans mes présentations. J'ai tendance à oublier, malheureusement. Mais j'essaie en même temps que je dis mes pronoms. Puis
ça va bien. Comme damned if you do, puis damned if you don't, là, tu sais.
Ouais, c'est ça.
J'ai pas la traduction de cette expression-là, là, mais c'est clairement un exemple de ça. Mais.
Ouais.
C'était bien. Tu sais, c'était bien qu'ils le fassent. Nous, dans notre entreprise, si on a des gens avec handicap, ça, le parenthèse, mon TDAH va sortir, là, mais ça m'énerve vraiment que le mot handicap ne soit pas traduit. Tu sais, qu'on n'a pas le mot disability en français, parce que j'aime pas du tout le mot handicap, là, ça m'énerve. Bref, tu sais, en anglais, c'est handicap, c'est un autre mot que disability, puis on n'a pas ça, et ça m'énerve. Bref. On a des gens avec handicap dans notre entreprise qui ont commenté sur cette saga de Microsoft-là, puis qui, eux, trouvent ça intéressant quand il y a juste un effort à essayer d'inclure tout le monde, un effort d'inclusion. Puis c'est triste de voir les commentaires qu'il y a, puis c'est des commentaires qu'on voit souvent sur toutes les mesures qui sont faites pour l'inclusion et l'accessibilité. Quand on regarde dans les médias s'il y a des mesures d'accessibilité, il y a toujours des commentaires négatifs. Tu sais, il y a une femme qui a gagné contre la banque TD parce que le site n'était pas accessible, le site de sa banque, on s'entend, pour qu'elle puisse utiliser et aller, tu sais, utiliser de son argent qu'elle a mis dans sa banque, qui est un service public, elle a gagné, évidemment. Et tous les commentaires, puis il y en avait des centaines, étaient négatifs, étaient comme « Bon, si je fais ci, je vais pouvoir poursuivre et avoir de l'argent. » Puis c'est juste tellement frustrant de voir que c'est comme ça que la population pense, tu sais.
Oui, non, effectivement. Mais il y a d'ailleurs une blague sur un groupe sur lequel je suis, puis c'était un peu par rapport au party Noël, comme quoi c'était, en fait, que justement party Noël était problématique, que il y avait tellement de demandes que bref on devenait un peu désespéré face à toutes les demandes qui étaient impossibles à satisfaire. Puis c'est triste, en fait. C'est, je comprends la blague dans un sens, mais d'un autre côté c'est triste parce que l'inclusion, c'est pas ça, c'est de faire en sorte que tout le monde soit ensemble, soit bien, puis qu'on fasse des efforts vers ça, puis il y a moyen de prévenir les carences. Tu sais, finalement, s'ils se posent des questions, s'ils font des focus groups, s'ils, tu sais, il y a moyen de prévenir en amont le problématique.
Ouais, c'est, mais en tout cas, je suis curieuse que tu me dises ça, parce que ça, je l'avais pas vu passer. Je pense, je sais à quelle publication tu fais référence, là, mais je trouvais que c'était quand même positif, tu sais, l'application sur les accommodements pour les parties de Noël. Moi, j'avais été contente de voir que, de façon générale, les gens étaient comme « Ah, tu sais, je suis contente, ça m'a fait réfléchir à différentes choses. » Puis, tu sais, moi, j'étais en train de monter le site web lesneurodivertissantes.com, puis honnêtement, je ne pense pas que j'aille réussir à le rendre accessible parce que je l'ai monté en genre une semaine, là. Puis je connais pas toutes les règles, mais tu sais, c'est sûr que ça fait partie aussi de mes réflexions de dire « Bon, ben comment est-ce que là, maintenant, une fois qu'il est monté, que je peux, tu sais, le faire évoluer puis me rendre vers quelque chose de plus accessible aussi, là, c'est...
Oui, effectivement.
Mais définitivement à suivre, là, avec tout ce que tu fais, puis avec... en tout cas, t'as ouvert plein de portes sur des zones de discussion vraiment intéressantes, là, je pense, aujourd'hui, qu'on n'avait pas encore couvert, puis que... Bon, c'est une boîte de Pandore. Là, j'ai encore plein d'autres choses que je vais apprendre, puis là...
ouais, j'ai eu des idées pour 3-4 épisodes, là, c'est sûr. Oui. Ben, merci beaucoup, Sophie. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous jaser?
Non. C'était bien fun.
Pour cette fois-ci, parce que c'est sûr qu'on aurait tellement d'autres choses à jaser avec toi, mais je pense que le temps file, n'est-ce pas?
Oui. Fait que là, ben, tu sais, dans le fond, Sophie, là, tu peux nous envoyer différents liens de trucs intéressants, là, pour nos auditeurs. On va pouvoir les mettre en lien à l'épisode. Puis si les gens peuvent te suivre, ils peuvent te suivre sur LinkedIn.
C'est pas mal ça. Je suis pas très active sur les réseaux sociaux.
Non, mais tes publications sur LinkedIn, ben, c'est en anglais, mais c'est super pertinent. T'as vraiment des choses... Tu pointes des choses qui sont vraiment intéressantes, je trouve. Fait que je vous invite à la suivre, forcément.
Puis, si vous avez des questions ou, tu sais, si quelqu'un veut... Moi, ça me fait plaisir, là, de réviser un site web, là, comme tu parlais, puis juste de dire qu'est-ce que tu préfères pour le rendre plus accessible, là, d'une façon qui est pas coûteuse. Puis si jamais il y a quelqu'un qui écoute et qui se pose ces questions-là, ben, ça me fait aussi plaisir de vous aider pour ça, gratuitement. Là.
Wow! Ben, c'est clair qu'on va le faire pour nous autres, tu es d'avoir un mandat. Oui. Ben, merci beaucoup, Sophie. On a vraiment apprécié. Puis c'est à bientôt, on va continuer à jaser, c'est clair. OK, bye-bye. Merci pour tout le monde, puis à la prochaine.
À la prochaine.
Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.